Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Emmanuel Macron dévoile sa feuille de route budgétaire pour 2018. Seules les armées bénéficieront d'une hausse de leur budget. Les autres ministères n'auront aucune ressource supplémentaire. Les explications d'Ilan Malka dans un instant. Les négociations sur le Brexit semblent piétiner à Bruxelles. Plusieurs sujets divisent les Britanniques et les Européens, notamment le statut des ressortissants de l'UE au Royaume-Uni. Nous ferons le point avec Pierre Benazé. Une nouvelle étape franchie dans la crise diplomatique entre l'Allemagne et la Turquie. Berlin met en garde les Allemands qui veulent faire du tourisme ou bien investir en Turquie. Le pouvoir turc est furieux. Alexandre Billette nous appellera d'Istanbul. Emmanuel Macron avait une seule priorité aujourd'hui, rassurer les militaires sonnés par la démission de leur chef d'état-major Pierre de Villiers sur la base aérienne 125 d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Le président s'est donc affiché aux côtés du nouveau patron de l'armée, François Lecointre. Il a surtout pris des engagements budgétaires. En 2018, le budget de la défense sera porté à 34,2 milliards d'euros, soit une hausse d'1,8 milliard. Problème, Emmanuel Macron a expliqué qu'aucun autre budget n'augmente l'an prochain. Ilan Malka, cela signifie donc que presque tous les ministères seront soumis à la diète.
Depuis plus d'une semaine, les annonces du gouvernement se suivent dans le même sens, celui des franches économies. Le 10 juillet, on apprend qu'il faut trouver 4,5 milliards d'euros avant la fin de l'année. Tout le monde est mis à contribution. Par exemple, le ministère de l'Intérieur doit trouver 526 millions. Le ministère de l'Éducation nationale, 75 millions. Et le ministère de la Défense, on le sait, 850 millions. Certains voulaient croire qu'il s'agissait d'un effort concentré sur cette année. L'espoir est donc douché par le chef de l'État lui-même. Le budget de l'armée sera le seul à augmenter en 2018, déclare-t-il. Tant mieux pour les militaires, mais tant pis pour les autres. Le secteur de la justice, par exemple, se voit demander 160 millions d'économies pour 2017. Et pour le sénateur LR Philippe Bas, président de la commission des lois, il faut absolument que les crédits soient augmentés rapidement.
Si on doit attendre encore 18 mois, il va de soi que le redressement de la justice va passer aux oubliettes. Et c'est, à mon avis, très grave, compte tenu d'une situation qui se caractérise par l'allongement des délais, qui sont passés de 7 à 12 mois en 10 ans, par un stock d'affaires en instance qui a augmenté pendant la même période de 25%, 70 000 détenus pour 58 000 places de prison, et nous arrivons à la corde, au bout du bout, et il n'est pas possible de laisser la justice à l'écart d'un effort de redressement qui supposera d'ailleurs de sa part d'importantes réformes aussi.
Philippe Bas vient de déposer une proposition de loi de programmation de la justice. Il demande une hausse des crédits de près de 28% sur 5 ans.
Ilan Malka, merci. Mobilisé par les militaires à Istres, Emmanuel Macron ne s'est finalement pas rendu à l'ouverture des états généraux de l'alimentation à Paris. Et c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a ouvert ce débat national destiné à trouver un nouveau modèle agricole pour la France. Il a insisté sur la détresse de certains paysans qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Édouard Philippe a appelé les participants à répondre à cette question. Pourquoi certains producteurs se font mieux entendre que d'autres dans leurs négociations commerciale. Les négociations sur le Brexit patinent. Voilà le constat que l'on peut faire après la deuxième session de travail aujourd'hui à Bruxelles. D'un côté, la délégation britannique, conduite par le ministre du Brexit, David Davis. De l'autre, le français Michel Barnier, qui défend les intérêts de l'Union européenne. Chacun a exposé ses arguments et les points de vue ne se sont pas vraiment rapprochés, Pierre Benazé.
Cette première semaine de véritables négociations aura été brève, elle n'aura duré que de lundi midi à ce jeudi matin, et les résultats ne sont pas nombreux. David Davis et Michel Barnier ont tous les deux évoqué une négociation constructive, mais il s'est surtout agi de défrichage, tant les divergences restent nombreuses. C'est en particulier le cas sur les droits des quelques 3,3 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni, droit que le gouvernement britannique propose uniquement d'inscrire dans une future loi nationale, ce qui n'est pas du tout l'option préconisée par les Européens. Michel Barnier.
Les citoyens doivent pouvoir trouver dans l'accord de retrait lui-même la certitude juridique dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Franchement, de notre côté, nous ne voyons aucune autre manière pour garantir la pérennité de ces droits européens exercés. Et évidemment, toute référence au droit européen implique son contrôle par la Cour de justice de l'Union européenne.
Et l'intervention de la Cour de justice est justement le point que récuse le plus le gouvernement britannique. Mais les désaccords ne s'arrêtent pas là, puisque le champ des obligations financières du Royaume-Uni n'a pas encore été défini. En fin de compte, les deux camps sont pour l'instant uniquement d'accord sur la nécessité de maintenir ouverte la frontière intra-irlandaise, sans toutefois avoir encore trouvé le moyen d'y parvenir.
Pierre Benazet, correspondant à Bruxelles, la prochaine session de négociation aura lieu à la fin de l'été, le 28 août prochain. En Pologne, les députés de la majorité conservatrice ont voté aujourd'hui une réforme controversée de la Cour suprême, un texte qui renforce le contrôle du pouvoir politique sur la plus haute instance judiciaire du pays. L'Union européenne a officiellement dénoncé cette réforme, allant même jusqu'à brandir la menace de sanctions contre la Pologne. Peine perdue puisque le PiS, le parti droit et justice au pouvoir à Varsovie, a choisi d'ignorer la colère de Bruxelles. Revenons à présent sur la crise diplomatique entre l'Allemagne et la Turquie. À l'origine de cette crise, l'incarcération en Turquie d'une dizaine de ressortissants allemands, journalistes ou militants des droits de l'homme, accusés de complicité de terrorisme. Des accusations inacceptables pour Berlin qui annonce une réorientation complète de sa politique turque. En clair, les touristes allemands sont invités à exercer une prudence renforcée avant de se rendre en Turquie. Une mise en garde qui s'adresse également aux investisseurs allemands. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère du pouvoir turc. Alexandre Billette nous appelle d'Istanbul.
La réaction d'Ankara a été sévère. C'est un acte politique irresponsable à des fins électorales, une déclaration inacceptable. Et le pouvoir turc ne digère pas la mise en garde faite par Berlin à ses ressortissants qui se rendent en Turquie. Et de façon plus générale, l'annonce du chef de la diplomatie allemande de réorienter la politique envers la Turquie énerve et inquiète Ankara. Et depuis le début de la crise diplomatique entre l'Allemagne et la Turquie, c'est la première fois que Berlin menace de poser des gestes qui pourraient avoir des conséquences économiques, notamment parce que les Allemands sont les visiteurs les plus nombreux en Turquie, mais aussi parce que le message s'adresse également aux investisseurs allemands. L'Allemagne est le premier partenaire économique de la Turquie, le premier débouché pour les produits turcs à l'exportation. Étape supplémentaire dans l'escalade entre Berlin et Ankara donc, mais ici les analystes s'interrogent déjà sur la capacité de l'Allemagne à réellement frapper la Turquie sur le plan économique. Alors qu'Ankara peut toujours sortir de sa manche la menace de rompre les accords sur les réfugiés.
Alexandre Billette, correspondant de RFI en Turquie. Il y a tout juste 6 mois, Donald Trump entrait à la Maison-Blanche, déjouant tous les pronostics électoraux. Aujourd'hui, le président américain semble en grande difficulté. Sa cote de popularité stagne entre 35 et 40% d'opinion positive. Et il a dû renoncer, pour le moment en tout cas, à abroger l'Obamacare, le système de santé mis en place par Barack Obama. Il faut ajouter à cela un homme fragilisé par les soupçons de collusion avec la Russie. Et pour ne rien arranger, Donald Trump tient des propos surprenants aux journalistes. Nouvel exemple avec cette interview déroutante où il évoque sa visite en France pour le 14 juillet. La correspondance à Washington de Philippe Randé.
Pour fêter ses 6 mois à la Maison-Blanche, Donald Trump a donné une interview au New York Times, interview à son image, imprévisible, décousue et par moments tout simplement hallucinante. Le 45e président des États-Unis revient longuement sur sa visite à Paris les 13 et 14 juillet. Il évoque notamment le dîner à la Tour Eiffel, estimant, je cite, qu'il y avait autour du monument des milliers de personnes, avant d'ajouter, attention, que la Tour Eiffel n'avait jamais rassemblé une foule aussi importante que lorsqu'il y a dîné. Donald Trump, qui apparemment a aussi été complètement bluffé par le défilé militaire du 14 juillet, il raconte qu'il a vu 200 avions au-dessus de sa tête, évoquant l'une des plus belles parades à laquelle il ait assisté. Enfin, Emmanuel Macron reçoit un hommage appuyé, un super gars, intelligent, fort, un gars dur qui va être un super président pour la France. Donald Trump qui conclut en évoquant la très longue poignée de main qu'il a échangée avec le président français sur les Champs-Élysées. Je cite, « Les gens ne réalisent pas à quel point il aime me tenir la main. »
Philippe Randé, correspondant aux États-Unis. Le monde du rock en deuil ce soir. Chester Bennington, le chanteur du groupe américain Linkin Park, est mort à 41 ans dans des conditions qui semble s'apparenter à un suicide. Le groupe Linkin Park s'était révélé au public en 2000 avec son premier album intitulé Hybride Theory, un disque qui s'était vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Le temps demain, mitigé et instable, des nuages et de la pluie du sud-ouest aux régions de l'est. Ce temps orageux pourrait déborder sur la vallée du Rhône en journée. Sur le nord-ouest, une nouvelle dégradation arrivera en fin de matinée. Il fera beau sur les régions méditerranéennes. Les températures maximales de 20 à 27 degrés à l'ouest, 27 à 31 sur le reste du pays. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.